Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. La suite et fin des aventures de Sonic de sa création au jeu vidéo célèbre que nous connaissons tous, c'est maintenant. Lors de la dernière émission, nous nous étions arrêtés à la partie musicale du soft. Les équipes marketing réalisent alors le potentiel de Sonic. La marque place tellement d'espoir dans ce titre que pour s'amuser, Al Nielsen, alors directeur marketing de Sega of America, décrète que Sonic n'est pas un simple hérisson, mais LE hérisson par excellence, et qu'il faut mettre une majuscule ou un T de THE, soit en français, Sonic le hérisson. Non sans humour, il explique à ses collègues qu'il s'agit d'un nom à particules et enregistre sous cette forme le titre du jeu pour les États-Unis, Sonic the Hedgehog. Sonic, donc, devient le nom officiel du programme. Mais au-delà de cette anecdote, une préoccupation majeure obsède Sega of America. Outre Nintendo sur son territoire, où la firme de Kyoto prévoit de sortir sa nouvelle console 16 bits à l'été 1991. Avec le hérisson bleu, la société Daneda sait qu'elle possède une carte de conserver son atout le plus longtemps possible. Plutôt que de révéler trop rapidement son futur titre, Sega va attendre le moment opportun. Le prochain salon important aux States a lieu en janvier et le monde entier y attend la présentation occidentale de la nouvelle console de Nintendo, la Super Nintendo. L'occasion idéale pour une apparition surprise et spectaculaire. D'autant qu'au dernier moment, Nintendo s'abstient de présenter en version jouable sa très attendue Super NES à l'événement, préférant mettre en avant les prochaines productions de la NES et de la Game Boy. Une décision qui lui sera énormément préjudiciable et profitera, au contraire, à la future mascotte de Sega. Sonic est présenté donc pour la première fois mondialement au grand public du 9 au 14 janvier 91 à la 43e édition de l'International Winter Consumer Electronic Show, dit CES, à Las Vegas. L'E3 n'existe pas encore et le salon aujourd'hui dédié à la high-tech est monopolisé par le jeu vidéo. Cette année-là, Nintendo n'occupe pas moins d'un tiers de la surface totale dédiée à l'événement. Mais avec le tiers d'un des trois Barnum, soit un neuvième du salon, Sega est également très présent et surtout bénéficie d'un énorme effet de surprise. Sonic est le jeu le plus impressionnant du salon et la société diffuse l'idée, non sans succès, qu'il pourrait bien s'agir du meilleur titre de plateforme jamais réalisé. La firme n'hésite pas à afficher sur des moniteurs placés côte à côte son projet phare, à celui de Nintendo, Super Mario World, également présenté lors de ce salon. La richesse du nouveau produit de Miyamoto n'échappe pas aux observateurs, mais l'aventure du plombier et sa popularité ont beau faire, elles sont bien moins télégéniques que l'audacieux Challenger de la Sonic Team. Les images du jeu Mega Drive sont beaucoup plus rapides, ses décors plus stylisés et sa palette de couleurs plus riche, sans compter que les réglages des téléviseurs sur le stand de Sega sont évidemment très à l'avantage de Sonic. La fin du salon signe sa première consécration via l'obtention du prix de l'innovation, le CES Award, décerné par l'Electronic Industry Association. Parallèlement, Sega sponsorise la tournée du groupe Dream Come True à travers le Japon. Celle-ci débute à Urayutsu, dans la préfecture de Chiba, le 7 novembre 90 et s'étend sur 3 mois. Le hérisson encore inconnu du grand public japonais est affiché sur l'énorme camion de la tournée. Sa première apparition publique hors d'un salon du jeu vidéo. Tout laisse à croire que Sega va frapper un grand coup, surtout que des fascicules à son effigie commencent à être distribués. On peut y lire sous la bouille bleue et joufflue de la mascotte un slogan énigmatique « Kawaii Yatsu Niwan Toshka Haru », soit en substance, même les plus mignons peuvent piquer, une sorte de défi jeté à Nintendo en quelque sorte. Sonic est également lancé dans le grand bain des salles d'arcade dès février avec Rad Mobile, un jeu de course dans lequel le hérisson fait une première apparition vidéoludique. Il n'est alors ni le pilote ni un concurrent, mais un porte-clés accroché au rétroviseur. Explication. Quand Sonic a été reconnu comme le personnage représentatif de Sega, un autre studio du groupe nous a demandé l'autorisation de l'inclure dans leur titre. Nous avons immédiatement accepté l'idée en se disant qu'il serait amusant que Sonic apparaisse dans toutes les productions Sega, se rappelle Yuji Naka. L'anecdote n'est pas anodine. Elle témoigne de la popularité de la mascotte en interne, de la mobilisation des équipes et de l'adhésion collective des salariés à l'ambition de la firme. La campagne de communication de la société porte également ses fruits. Mois après mois, salon après salon, au cours de l'année 91, Sonic devient l'un des personnages du jeu vidéo les plus célèbres avant même sa sortie. Au printemps 91, débute une campagne de pub agressive envers Nintendo. Le célèbre Sega Does What Nintendo Don't, que l'on pourrait traduire par Sega fait ce que Nintendo n'ose pas, avant même d'arriver sur le territoire américain avec sa nouvelle machine et son jeu Super Mario World, la firme de Kyoto se découvre soudain une nouvelle image de marque, sinon vieillissante, du moins beaucoup plus timorée que celle véhiculée par Sega. Pour la première fois de son histoire, le grain de poussière que représentait la société de Haneda sur ce secteur va pouvoir lui tenir tête. Sony voit enfin le jour sur Genesis, l'équivalent outre-Atlantique de la Mega Drive, le 23 juin 91. Preuve en est que le jeu est avant tout pensé et réfléchi pour un public occidental. Il faut attendre la date du 26 juillet, soit plus d'un mois après, pour que l'archipel nippon ait droit au chef d'œuvre de Sega à son tour. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, il faut s'imaginer que Nintendo détient à cette époque-là plus de 70% du marché mondial. Autrement dit, la quasi-totalité. Sonic est un pari risqué pour Sega, certains n'hésitant pas à prédire un échec total face au quasi-monopole de la firme de Kyoto. Or, pour faire flancher Mario, de nombreux moyens commerciaux sont mis en œuvre par Sega of America. Et ce, dès le lancement du jeu, des bornes d'essai sont installées dans différentes métropoles du pays, chacun pouvant ainsi se faire un avis sur ce nouveau jeu. Malgré le succès de Sonic, Sega of America, par l'intermédiaire de son président Tom Kalinske, estime que le personnage n'est pas exploité à son plein potentiel. Pour le quadragénaire, le jeu vendu avec la console Altered Beast n'est pas assez fédérateur. Il n'hésite pas à s'envoler pour le Japon afin de parler du problème avec Hayao Nakayama, le grand patron de Sega. Son but est à peine voilé, convaincre sa hiérarchie devant la Mega Drive avec Sonic. Lorsque le moment décisif arrive, Nakayama entre dans une colère noire. Quoi ? Vous n'êtes pas bien ? Nous gagnons de l'argent avec la vente de nos jeux et vous voulez que notre meilleur titre jamais sorti, on le donne avec la console. Shinobu Toyoda, le producteur exécutif du soft, participe à ce moment vital pour la suite des opérations. Nakayama-san s'est carrément levé en hurlant, tout en donnant un grand coup de pied dans sa chaise. Très énervé, il est parti en direction de la porte pour sortir de la salle. Et au moment de la franchir, il s'est retourné brusquement vers Kalinske en lui disant « Si vous pensez qu'il s'agit de la solution pour battre Nintendo, alors faites-le !» Et il a claqué la porte. Ce jour-là, Kalinske est persuadé que sa carrière chez Sega vient de toucher à sa fin. Mais il n'en est rien. De retour au step, il met en place une offre promotionnelle exceptionnelle qui se solde par un franc succès en baissant le prix à 149$ avec jeu inclus contre 199$ pour la Super Nintendo. Du 1er juillet au 31 août 91 aux États-Unis. Pour tout achat d'une Genesis, le jeu Sonic est offert. Grâce à cette opération audacieuse, destinée à contrer la sortie de la Super NES au mois d'août, Kalinske parvient à faire dépasser la barre des 15 millions de machines vendues. En Europe, Nintendo laisse carrément un boulevard entier à Sega pour la période de Noël. Le seul opposant au hérisson bleu se trouve incarné par Super Mario Bros. 3 sur 8 bits, sa NES. Si ce dernier est exceptionnel visuellement, il accuse l'âge. En novembre 91, Sega au Japon reprend les rênes de la distribution qui seront jusque-là tenues par Virgin Mastertronic. C'est ainsi que naît Sega France. Quelques chiffres. Pour finir, 4 millions de ventes pour Sonic dans le monde, des notes exceptionnelles généralement réservées pour les meilleurs jeux, 96% dans Player One, 99% dans Megaforce, la couverture de la plupart des magazines spécialisés, des goodies, etc. Le hérisson blé dans toutes les discussions des écoliers et les marchés occidentaux que sont les États-Unis et l'Europe succomberont à la tornade bleue. En quelques mois, Sega relaye Nintendo à la seconde place avec près de 65% de parts de marché aux États-Unis. L'histoire de Sonic n'en est qu'à ses balbutiements et à partir de cet instant, les instances japonaises n'ont plus jamais interféré dans les choix de Kalinske. Ce succès est le sien. Il est aussi celui des trois hommes à l'origine du... La suite des aventures de Sonic appartient aussi à l'histoire, mais ce sera tout pour les émissions spéciales Sonic. On reviendra sur ce héros du jeu vidéo en quelques numéros. La pause musicale dans votre émission Carrément Rétro, c'est avec Robert Parker, Lost Love. C'était la pause musicale dans votre émission avec Robert Parker, Lost Love.
Ornithorynx sur internet, c'est sur www.ornithorynx.net.
Moi j'écoute carrément Rétro Ornithorynx et j'aime ça.
La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui dans le jeu du jour, le célèbre jeu d'arcade et de tir Shoot'em Up R-Type. R-Type fut développé par Irem, qui est loin d'être un développeur justement très connu en France. Très actif à la grande époque de l'arcade et sur console 16 bits, rappelez-vous, Kung Fu Master, Vigilante, etc. Ce studio ne s'est illustré qu'avec des titres comme Sub Rebellion, très moyen, ou SOS The Final Escape, plutôt bien pour lui. Mais le jeu qui a fait entrer Irem dans la légende étant évidemment R-Type. Les suites se sont enchaînées pour finalement arriver à cette magnifique conclusion. Pour ceux qui auraient connu R-Type, ce shoot'em up légendaire était d'une beauté à couper le souffle, doublé d'une épouvantable difficulté. Extrêmement novateur pour l'époque, R-Type proposait une sélection d'armes idéalement conçue, avec notamment l'apparition d'un petit module qui venait se greffer à l'avant ou à l'arrière de votre engin pour lui apporter une protection rapprochée. Les épisodes suivants ont bénéficié du même soin pour arriver enfin à cette édition finale qui boucle la série en beauté. On retrouve donc ce cher empire Bido et son armée de vaisseaux et de monstres mécaniques, et on retrouve également le même principe de module appelé Force qui se colle sur le nez de votre navette. Des vagues d'ennemis s'enchaînent sur l'écran et vous devrez tout nettoyer jusqu'au boss avant de passer au niveau suivant. Simple, ancestral, mais toujours aussi efficace. Grâce au module de force, R-Type s'est toujours différencié des autres jeux de tir, car la stratégie du jeu s'en retrouve complètement modifiée. Il ne s'agit plus seulement d'esquiver les tirs ennemis, mais aussi de gérer au mieux ses armes et surtout son module, car ce dernier peut s'attacher devant ou derrière, comme dit tout à l'heure. Il peut être éjecté aussi temporairement pour ensuite revenir. Il tire indépendamment de vous et peut servir de bouclier. À côté de ça, vous pourrez récupérer des missiles et d'autres bonus qui renforceront votre équipement. Mais vous n'avez pas de jauge de vie. Une balle perdue et c'est l'explosion immédiate. Ce dernier R-Type est tout de même plus facile que le premier. Vous passerez le premier boss en quelques tentatives à peine. Les niveaux de difficulté sont nombreux et franchement, on ne passe pas son temps à éviter les tirs et à matraquer les boutons. R-Type final est plus subtil que ça et le rythme même du jeu est plus relax, toute proportion gardée. Rester concentré est la plus grande difficulté du jeu lorsque l'on doit avoir un œil sur le vaisseau et l'autre sur le module et qu'il faut en plus surveiller les ennemis et leurs projectiles, sans oublier d'admirer le décor. Parce que le R-Type final est quand même franchement beau, certes, il faut aimer le genre, spatio, galactico, monstro-plante, mais des jeux avec un tel déluge graphique, il n'en pleut pas tous les jours. Les développeurs ont fait preuve d'une grande imagination dans le design des décors et des ennemis, même si certains niveaux sont plus réussis que d'autres. De même, les musiques sont magnifiques et nous changent de la techno-soupe régulièrement entendue dans les productions de ce genre. Outre la qualité de la réalisation de R-Type Final, son principal intérêt réside également dans le nombre gigantesque de vaisseaux jouables. C'est bien simple, il y en a 100. Au moins, la durée de vie de ce type de jeu se trouve largement compensée par la possibilité d'essayer tous ces engins au design et aux fonctions différentes, à condition de les débloquer, sinon ce ne serait pas drôle. Avant de commencer une partie, vous pourrez choisir 8 véhicules différents. Tant que vous ne perdez pas, vous ne pouvez pas changer, mais à chaque nouveau crédit vous avez cette possibilité. À vous donc de partir avec les bons engins, ce qui sous-entend de connaître le jeu déjà par cœur. Et oui, le shoot'em up reste un genre très hardcore. En conclusion, R-Type Final est un très beau jeu qui vous fera verser une larme à tous les vieux joueurs qui auront grandi avec la série, comme moi. Mais ses modes d'apprentissage, ses différents niveaux de difficulté et son côté collection de vaisseaux le mettent à portée des joueurs d'aujourd'hui. Un grand shoot tout public qui ne trahit pas ses origines, on applaudit bien fort. Pour revenir sur le premier R-Type, celui sorti en arcade en 1986, vous pouvez le trouver actuellement sur Master System pour une quinzaine d'euros en parfait état, mais aussi sur la Super Nintendo pour la première mouture de ce jeu pour une trentaine d'euros. Pour le R-Type final sorti sur PlayStation 2 en 2003, comptez une vingtaine d'euros. Et enfin, pour ceux qui veulent acquérir le Graal de la version arcade, il faut compter quand même une centaine d'euros pour ce jeu de 1986. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynx.net. Je répète, johan@ornithorynx.net. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine !